Cette émission spéciale de Programme Double a été réalisée en hommage à l'acteur Tony Todd, qui nous a quittés le 6 novembre 2024 à l'âge de 69 ans. Cet acteur incroyable, qui a eu plus de 256 rôles durant sa carrière, était malheureusement atteint d'un cancer de l'estomac et est décédé à sa résidence de Marina Del Rey, en Californie. Il restera à jamais une légende, plus spécifiquement pour son rôle du personnage de Candyman. Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Né le 5 octobre 1952 à Liverpool, Clive Barker deviendra un romancier, un dramaturge, un scénariste de bande dessinée et de films, un peintre, un illustrateur ainsi qu'un réalisateur, tant au niveau théâtral que cinématographique. Ce sera au milieu des années 1980 que Barker écrira « The Books of Blood », une série de livres dans lequel il proposera un panorama de fantastique contemporain dont il évoque tous les aspects à chacune des nouvelles de ses recueils. Cette œuvre, dont chaque volume possédait entre 4 et 5 histoires horrifiantes, fera de lui le représentant le plus connu du mouvement Splatterpunk, un mouvement au sein de la fiction d'horreur qui est considéré comme une révolte contre l'histoire d'horreur traditionnelle et humblement suggestive et se distingue par sa représentation graphique de la violence, souvent sanglante, son alignement contre-culturel et surtout l'horreur hyper-intensive sans limite. Ce sera dans le 5e volume de cette série de 6 livres anthologiques que l'on y retrouvera la courte histoire intitulée « The Forbidden » qui suivra une jeune étudiante de l'université, Hélène, qui écrira sa thèse sur une série de graffitis se trouvant dans un quartier pauvre de la ville où elle se trouve et représentant un personnage de légende urbaine appelé Candyman. Publié en 1985, il faudra attendre en 1992 avant que ne soit adaptée cette courte histoire sur le grand écran, long-métrage qui obtiendra un certain succès et donnera alors naissance à une franchise composée de 3 suites dont le dernier film, sorti en 2021, cherchera à revitaliser cet univers fantastique. Daniel Robitaille sera donc le sujet de cette émission spéciale de Programme Double qui s'attardera sur la franchise complète de ce personnage antagoniste afro-américain qui fut brutalement assassiné pour une histoire d'amour interraciale interdite au 19e siècle avant de revenir comme légende urbaine à Chicago ainsi qu'en Nouvelle-Orléans et tuer quiconque qui invoquera son nom 5 fois devant un miroir. Barker fut en partie inspiré pour la création de ce personnage par une petite histoire que lui racontait sa grand-mère alors qu'il n'avait que 6 ans, et ce afin d'apprendre au jeune homme à faire attention aux étrangers, une histoire morbide à propos d'un homme aux mains crochues qui coupait les organes génitaux d'un garçon. Donc, placez-vous devant votre miroir et préparez-vous à prononcer son nom 5 fois tout en écoutant l'histoire sombre et morbide de ce personnage légendaire entouré d'abeilles, de miel, ainsi que d'une soif de vengeance mortelle qui firent de lui le Candyman.
Welcome to your favorite drive-in theater and a sparkling new season. Watch our screen and local newspapers for all the fine shows coming this way. Show after show will feature the latest hits, the biggest stars for fun-filled, pleasure-packed evenings. Relax, come as you are, and spend an enjoyable night out with the entire family. No parking problems, no babysitting problems. And there are always tasty snacks at our modern refreshment stand.
Thanks, folks. And once again, welcome back.
We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
Jim Rex? What's Jim Rex? Would you believe a movie audience guide presented as a public service by this theater's management to help you select your motion picture entertainment? Well, that's what it is. And we urge you to learn these rating symbols and use them as a guide for you and your family. G means suggested for general audiences, all ages. M, suggested for mature audiences, parental discretion advised. R, restricted, persons under 16 not admitted unless accompanied by parent or adult guardian. X, persons under 18 will not be admitted. This seal in advertising indicates that the film was approved under the Motion Picture Code of Self-Regulation.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime.
Rated X.
Have you ever heard of Candyman? And if you look in the mirror, you say his name 5 times.
In cities everywhere.
Candyman?
They whisper his name.
Right. Candyman.
It's just a story.
Candyman?
Candyman.
Just a ghost story.
Candyman.
An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure.
The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated, and burned to death. Poor Candyman.
Helen, a woman died in there. Leave it.
Everyone knows he isn't real.
That's modern oral folklore.
Everyone. Except Helen Lyle.
Where did that? It ain't safe around here.
That don't scare too easy. Don't know about Ruthie Jean? They ain't never gonna catch him.
Who?
Candyman.
Who is that?
I came for you.
Do I know you?
Now, she is about to discover.
Tell me.
What's behind the mystery?
I'm sick.
What's behind the legend?
Listen, he's under the bed!
And most terrifying of all,
come with me.
What's behind the mirror?
He's here.
Candyman, you don't have to believe. Just beware.
Candyman est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Metro Goldwyn Mayer le 7 octobre 1992. Ce film américain d'une durée de 101 minutes a coûté 9 millions de dollars à produire et a amassé plus de 25,8 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique Bernard Rose, lui qui avait réalisé les films Paper House et Immortal Beloved. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain Stephen Gollan, lui qui avait produit les films Ruby, The Game et 50 First Dates. Le producteur islandais Sigurjón Sighvatsson, lui qui avait produit les films Kill Me Again, Wild at Heart et California. Et également le producteur américain Alan Poole, lui qui avait produit les films Black Rain, Inside Out et Woman on Top. Au poste de scénariste, eh bien, on y retrouve le scénariste britannique Bernard Rose, lui qui avait écrit les scénarios de Anna Karenina, Frankenstein, la version de 2015, et The Two Jacks. Dans la distribution, eh bien, on y retrouve Virginia Madsen, Tony Todd, Xander Berkeley, Vanessa Estelle Williams, Casey Lemons, Dewan Guy, Gilbert Lewis, Caroline Lowery, Stanley DeSantis, Mariana Elliott, Ted Remy et Michael Culkin. Une jeune anthropologue spécialisée dans les croyances superstitieuses décide d'enquêter sur un meurtre commis dans un quartier pauvre de Chicago. Son intérêt est motivé par une rumeur voulant que ce crime ait été perpétré par un personnage légendaire nommé Candyman. En explorant l'immeuble où s'est déroulé le drame, la jeune femme est brutalement assaillie par des voyous dont le chef s'amuse à personnifier Candyman afin de terroriser les gens du voisinage. Mais le véritable Candyman, un être surnaturel, ne tarde pas à se manifester en commettant des crimes horribles dans l'entourage de la jeune femme afin de donner de la crédibilité à sa légende. Ce sera durant une rencontre entre le metteur en scène Bernard Rose et l'écrivain Clive Barker que le réalisateur britannique fit part de son intérêt à l'auteur pour adapter sa courte nouvelle The Forbidden sur le grand écran. Barker, qui venait tout juste de terminer la production de son tout dernier film Nightbreed en 1990, acceptera alors de lui vendre les droits cinématographiques. Cependant, alors que l'histoire de Barker tourne autour des thématiques du système de classe sociale britannique, plaçant son histoire dans sa ville natale de Liverpool, Rose, lui, décidera de transporter l'histoire aux États-Unis, plus précisément à Chicago, après que ce dernier fut fort impressionné par l'architecture impressionnante des bâtiments de cette ville. Recevant l'aide des membres de la Commission cinématographique de l'Illinois, le réalisateur commencera à explorer Chicago et découvrira alors le petit quartier de Cabrini Green, un projet d'aménagement urbain reconnu pour sa pauvre qualité de construction ainsi que pour son haut taux de criminalité du secteur. De plus, désirant explorer le choc des classes urbaines, Rose sera conquis par le fait que Cabrini Queen se situait tout près d'un secteur bourgeois, permettant ainsi à son personnage principal, Hélène, de pouvoir regarder le voisinage délabré de Cabrini Green à partir de la fenêtre de son logement très luxueux. Pour l'écriture de son scénario, Rose s'inspirera également d'articles écrits par le journaliste Steve Bogira, paru dans le Chicago Reader en 1987, ainsi qu'en 1990, article qui couvrait le meurtre de Rudy Mae McCoy, une résidente du quartier de Abbott Homes à Chicago, qui fut assassinée dans son logement en 1987 après qu'un ou plusieurs intrus aient pénétré par le cabinet médical de sa chambre de bain qui donnait accès au logement situé à côté. À l'origine, dans la nouvelle, le nom de Candyman devait être dicté plus de 10 fois devant un miroir. Rose décidera de descendre à 5 parce qu'il trouvait que 10 était beaucoup trop long pour le cinéma. Après avoir terminé l'écriture de son scénario, Rose obtiendra son financement de la compagnie Metro Godwin Mayer et débutera alors la recherche de sa distribution. Le fait de voir le réalisateur britannique venir travailler sur le territoire nord-américain amènera un intérêt hors du commun au niveau des différentes agences de casting. Du côté des acteurs Virginia Madsen et Tony Todd, les deux comédiens furent tout de suite intéressés par le projet et montrèrent rapidement leur intérêt. Pour Madsen, cette dernière devait interpréter le rôle de Bernadette, tandis qu'Alexandra Pigg, la femme de Bernard Rose à l'époque, devait jouer le rôle principal. Pigg tombera alors enceinte, ce qui contraint celle-ci à abandonner le rôle et ainsi permettre à Madsen, qui était alors une amie proche du réalisateur et de sa femme, d'obtenir le rôle d'Hélène, l'actrice se voyant finalement enlever le personnage de Bernadette qui fut transformé en personnage afro-américain. Si Madsen n'avait pas été disponible pour interpréter le personnage d'Hélène, l'un des producteurs, Alan Poole, avait alors envisagé d'embaucher l'actrice Sandra Bullock. Du côté de Candyman, Todd obtiendra le rôle du personnage principal. Lors de son audition, le réalisateur fut impressionné par l'apparence de l'acteur, mais surtout par le fait que Todd ressemblait étrangement au dessin qu'il réalisa pour son découpage technique. Du haut de ses 6 pieds, Todd était parfait pour interpréter le meurtrier surnaturel, mais son entourage était quelque peu inquiet, dû principalement au risque élevé de recevoir de multiples piqûres d'abeilles durant la production. Que cela ne tienne, Todd se mettra au travail, écrira lui-même toute l'histoire de fond du personnage dont le passé n'avait nullement été touché par l'auteur Clive Barker dans la nouvelle de Forbidden, personnage qui était de race blanche à l'origine. De plus, Todd travaillera avec le designer Bob Keane sur l'apparence de son personnage et c'est lui qui aura l'idée d'un crochet à la place de sa main gauche. Todd proposera même à Keane que le personnage porte un cache-œil, ce à quoi s'opposera le designer. Le tournage se déroulera du 4 novembre au 28 décembre 1991. 3 jours de tournage se situeront dans l'ensemble de logements sociaux de Cabrini Green, alors que le reste se fera en studio dans la majorité des cas. Avant le début de la production, Todd et Madsen se rendront à Cabrini Green avec une présence policière afin d'effectuer des recherches pour leurs personnages respectifs. L'événement allait être troublant pour les deux acteurs qui furent véritablement perturbés par ce qu'ils y verront. Afin de sauver de l'argent sur la production, Rose demandera au concepteur des effets spéciaux Martin Bresson d'utiliser des effets optiques traditionnels et non numériques. D'ailleurs, Bresson allait embaucher l'équipe qui avait travaillé sur le film de Ron Howard, Backdraft, pour réaliser la scène finale où un gigantesque feu extérieur sera conçu avec l'aide de plus de 1500 gallons de propane pour ce brasier qui devait être d'une hauteur de 70 pieds par 30 pieds de large. Ce sera Norman Gary qui s'occupera des séquences impliquant plus de 200 000 abeilles véritables. Gary avait précédemment travaillé sur les films The Deadly Bees en 1966, My Girl en 1991 et Fried Green Tomatoes cette même année. La majorité de l'équipe de production était protégée des risques de piqûres d'abeilles grâce à des combinaisons. Lorsqu'il signa son contrat, Tony Todd avait négocié un bonus de 1 000 $ pour chaque piqûre d'abeilles qu'il recevrait sur le plateau de tournage. Au total, l'acteur se verra piquer plus de 23 fois durant toute la production. Pour la séquence finale, plus de 500 abeilles devront être placées sur le visage de l'actrice Virginia Madsen. Le problème, c'est que l'actrice était allergique aux piqûres d'abeilles. Le réalisateur s'assurera que des ambulanciers soient sur le plateau de tournage cette journée-là. Afin d'éviter que la jeune femme ne panique, Bernard Rose utilisera un hypnotiseur professionnel qui plongera alors Madsen dans une sorte de transe. Au final, cela permettra à l'actrice de passer à travers ces moments difficiles et également d'apprendre qu'elle était finalement allergique aux piqûres de guêpe et non d'abeilles. Afin de s'assurer que les abeilles allaient rester sur place, le visage de Madsen allait être enduit de phéromones, une hormone qui fera croire aux abeilles que la jeune femme était une gigantesque reine. Il faudra plus de 45 minutes afin de retirer sécuritairement les abeilles de sur l'actrice. Du côté de l'acteur Tony Todd, cette scène fut plus complexe car Todd se devait de garder ses abeilles dans sa bouche. Afin d'éviter les piqûres dangereuses, un protecteur buccal sera alors utilisé. Plus de 30 minutes seront nécessaires afin de mettre les quelques 500 abeilles dans la bouche de l'acteur afro-américain. Toutes les abeilles utilisées pour ces scènes furent créées pour le film, ces dernières n'étant âgées que d'une douzaine d'heures seulement, donnant ainsi une apparence mature à ces insectes, bien que la force de leurs piqûres était beaucoup moins néfaste pour ceux qui en recevaient. Lorsque se terminera la production, le musicien Philip Glass obtiendra le poste de compositeur pour la trame sonore du long-métrage. Une fois le premier montage terminé, le réalisateur britannique projettera sa version de 145 minutes du film aux exécutifs de la MGM, qui ne furent alors pas vraiment impressionnés. Le studio prendra alors le contrôle de la production au grand désarroi de Rose et ordonneront alors que le drame fantastique soit remonté afin de donner une version beaucoup plus courte du film. Candyman aura sa première mondiale au Toronto International Film Festival le 11 septembre 1992. Suite à sa distribution, le drame fantastique verra son actrice principale récompensée. En effet, Virginia Madsen remportera le prix du public de la meilleure actrice au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1993, ainsi qu'au Saturn Award durant la même année. Quant à Philip Glass, celui-ci remportera également le prix de la meilleure composition musicale durant le Festival d'Avoriaz. Aujourd'hui, considéré comme un classique, Candyman obtiendra une adaptation littéraire ainsi qu'un comic book et sera suivi de trois autres films, soit Candyman, Farewell to the Flesh, en 95, Candyman, Day of the Dead, en 99, et une suite directe au film original qui sera produite en 2021. Du côté des points positifs, eh bien, dès les premières images, on comprend ici que l'on n'assiste pas à un slasher traditionnel, le visuel ainsi que la musique faisant une coupure drastique avec ce que l'on voit habituellement dans ce genre de film. Ceci est d'ailleurs beaucoup plus une véritable lettre de noblesse du réalisateur britannique aux légendes urbaines qu'un slasher film. Loin de se complaire dans les visions gore et grotesques que l'on serait en droit d'attendre de la part de ce type de produit, le metteur en scène réalise ici une œuvre qui privilégie l'angoisse et une atmosphère poétique tout aussi envoûtante que mystérieuse. Alors que la mise en scène est d'une qualité supérieure, c'est également le cas pour la distribution, tout spécialement l'actrice Virginia Madsen qui nous donne ici sa meilleure prestation en carrière alors que Todd est tout à fait magique et charismatique dans le rôle du Candyman. Le scénario est intelligent et l'histoire hypnotisante, le tout rehaussé par une imagerie originale et une trame instrumentale du compositeur Philip Glass qui est tout à fait hypnotisante. Le long-métrage prend le temps de s'arrêter sur son message au niveau des conflits de classe sociale sans que cela ne devienne lourd ou fatigant pour le spectateur. Finalement, lorsque le récit bascule enfin dans l'horreur, ce n'est pas pour céder à la mode du slasher et présenter une succession de meurtres gratuits, mais bien pour précipiter son héroïne au seuil de la folie, celle-ci se voyant endosser progressivement les meurtres du fantôme au crochet, au point de douter elle-même de sa propre innocence. Mais du côté des points négatifs, le fait que l'on n'assiste pas ici à un slasher et que le gore ici fait place à l'histoire, Candyman pourrait quelque peu ennuyer les amateurs de scènes sanguignolantes et de meurtres crapuleux, notre personnage principal étant beaucoup plus tourmenté psychologiquement par un être surnaturel qui ne cherche qu'à faire valoir son existence à une société qui pourrait l'ignorer. Le film sombrera dans l'ésotérisme et le romantisme entre le personnage d'Hélène et Candyman, chose qui peut encore une fois ennuyer certains spectateurs qui, eux, sont à la recherche de sensations fortes. Au final, La conclusion nous laisse sur une séquence qui nous font poser beaucoup de questions sur ce qui est réellement arrivé au personnage du Candyman. Existe-t-il encore ou est-ce que ce dernier a été remplacé par une nouvelle légende urbaine? Il vous faudra attendre au film de 2021 pour avoir la réponse. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur Philip Glass qui a réalisé ici la trame sonore, lui qui avait réalisé la musique des films Hamburger Hill, Secret Window, Kundun et Candyman, Farewell to the Flesh. Vous pouvez retrouver la trame sonore de Candyman sur l'album The Music of Candyman, qui a été distribué en CD le 21 septembre 2001 sous l'étiquette Orange Mountain Music. Ou encore, vous avez le vinyle Candyman, qui est sorti en édition limitée le 4 novembre 2014, en cassette ainsi qu'en vinyle, sous l'étiquette One Way Static Records.
Candyman, flesh and blood? I'm afraid not.
But he lives in the mirror.
You say his name 5 times, he's supposed to come.
That's how he gets you.
You guys don't really believe that, do you? There's no such thing as a Candyman.
Those 3 victims were John Doe's.
But what if it's true? What if the Candyman does exist? What did you see that night? Ray's body was torn apart by something powerful. And it wasn't your brother.
I'm gonna find out what happened.
No! No!
There are no monsters.
You brought me here.
And only God can save us.
The terror in the mirror returns.
Our journey begins.
To avenge his name. Reveal his past. And fulfill his destiny.
What do you want from me?
Death is a return, you know.
In a motion picture that ends what the first one barely started. Candyman, farewell to the flesh.
Candyman, Farewell to the Flesh, ou encore Candyman 2, est un drame fantastique qui a été produit par les studios Gramercy Pictures et Lava Production et qui sera distribué en salle par les studios Metro Godwin Mayer le 17 mars 1995. Ce film américain d'une durée de 95 minutes a coûté 6 millions de dollars à produire, mais n'amassera que 13,9 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, le metteur en scène américain Bill Condon, lui qui avait réalisé les films Sister, Sister, Gods and Monsters, ainsi que Dreamgirls. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Greg Finberg, lui qui avait produit les films Dead Connection et Twin Peaks Firewalk With Me, ainsi que le producteur islandais Sigurjón Sighvatsson, lui qui avait produit les films Kill Me Again, Wild at Heart et California. Au poste de scénariste, on y retrouve les scénaristes américains Rand Ravitch, qui avait travaillé sur les films Crime Lords, The Astronaut's Wife et The Maker, ainsi que Mark Kruger, lui qui avait travaillé sur les scénarios de We Have Always Lived in the Castle et la série télé Salvation. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Tony Todd, Kelly Rowan, Bill Nunn, William O'Leary, Veronica Cartwright, Matt Clark, Randy Oglesby, Joshua Gibran, David Giannopoulos, Timothy Carhart et Michael Culkin. Persuadé de l'innocence de son frère, qui est accusé d'un meurtre bizarre, une jeune institutrice mène sa propre enquête et conclut que l'assassin serait un démon qui serait lié au passé troublant de sa famille. Candyman est officiellement le tout premier meurtrier en série afro-américain de toute l'histoire cinématographique du slasher film. Dès la sortie du premier opus en 1992, le drame fantastique sèmera une certaine controverse à cause de ses délimitations raciales, parlant notamment du climat social de racisme et de ségrégation urbaine dans lequel vivent les classes sociales pauvres américaines. Cherchant à profiter du succès du premier film, le producteur Steve Gollan demandera alors à Bernard Rose d'écrire un scénario afin de sortir une suite l'année suivante. Rose signera donc avec le producteur pour écrire et réaliser une suite alors que les exécutifs de la MGM accepteront alors de donner une bonne somme d'argent au metteur en scène qui compensait largement pour le faible salaire que ce dernier avait reçu pour le film original. Cependant, le succès du film original avait élevé la position du réalisateur britannique dans l'industrie, conduisant à de nombreuses réunions dans toute la ville pour un autre projet qui lui tenait à cœur, soit le biopic à gros budget de Beethoven, Immortal Beloved. Lorsque la compagnie de production Icon Productions de l'acteur Mel Gibson acceptera de financer ce projet, cela mettra plus de pression au réalisateur qui se devait de réaliser Candyman avant son biopic tant désiré. Rose écrira donc un scénario qui s'intitulera « Candyman 2 – The Midnight Meat Train », une histoire qui ne se situait pas directement après celle du premier film, mais qui aurait une continuité de l'idée du mythique croque-mitaine et de ses origines. Fasciné par la légende du personnage de Jack l'Éventreur, Rose inclura l'idée que les meurtres de Jack l'Éventreur recommençaient à se reproduire. Partant de l'idée que le premier Candyman parlait de race, l'idée de ce deuxième volet aurait couvert une autre légende et aurait mis l'accent sur la question de genre, mettant de l'avant cette idée d'un tueur brutal et sans visage qui n'attaquait que les femmes d'une manière sexuelle horrible. Le protagonisme de ce nouveau long-métrage aurait été une policière britannique qui découvrira alors un complot derrière cette légende urbaine. Un problème surviendra avec cette histoire. Le Candyman original n'était plus présent. Cela rendra les exécutifs de la MGM frileux, décidant alors d'abandonner le dit projet. Rose proposera par la suite d'autres projets de suite, mais la durée de temps pour produire la dite suite deviendra trop serrée, forçant alors le réalisateur à quitter la franchise. Le producteur Steve Gollan quittera également, forçant alors la compagnie MGM à se tourner vers Greg Finberg, qui avait fait ses débuts à Hollywood dans la série de David Lynch, Twin Peaks, et, bien sûr, le producteur islandais Sigurjón Sighvatsson. Ren Ravitch et Matt Kruger seront alors embauchés par la compagnie Lava Production, qui, elle, s'occupera de la production du dit projet, qui sera cofinancé par l'Angleterre et les États-Unis. Intitulé « Candyman, Farewell to the Flesh », ce second volet se verra doté d'un budget de plus de 6 millions de dollars. Ce sera alors le réalisateur Bill Condon qui sera embauché, ce dernier ayant pris principalement son expérience à la télévision en réalisant des téléfilms tels que « Murder 101 »,« White Lie » et « Deadly Relation ». Tony Todd sera de nouveau présent dans le rôle de Daniel Robitaille et il sera accompagné dans la distribution par l'actrice Kelly Rowan, Veronica Cartwright et les acteurs Bill Nunn ainsi que William O'Leary. Le tournage débutera le 6 août 1994 en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, et se terminera le 19 octobre de cette même année. Des reshoots seront par la suite demandés par les exécutifs de la MGM, séquences qui seront retournées à Los Angeles, en Californie. En 1990, le réalisateur Bernard Rose avait demandé au musicien Philip Glass de composer la trame sonore pour son film Candyman. Glass acceptera cette tâche et écrivit une partition gothique pour chœur et orgue. Mais lorsque les producteurs du film deviendront insatisfaits du projet et qu'ils remonteront le long-métrage, Glass deviendra alors déçu du résultat final. Lorsqu'arrivera le projet de suite, Glass acceptera de laisser le studio utiliser sa partition originale du premier film et débutera alors le remixage de cette dernière tout en créant de nouveaux éléments pour la suite. Depuis la sortie du film de 1992, les fans manifestèrent leur intérêt pour la sortie de la bande originale, mais il faudra attendre en 2001 avant que la musique des deux premiers films de la franchise ne soit disponible en CD sous le titre de « The Music of Candyman ». Candyman Farewell to the Flesh sera distribué dans plus de 1605 cinémas à travers l'Amérique du Nord en mars 1995. Cette première collaboration entre le réalisateur Bill Condon et l'univers de Clive Barker, les deux hommes ayant par la suite travaillé ensemble sur Gods and Monsters, aura alors un succès mitigé, n'amassant que 13,9 millions de dollars au box-office nord-américain. Une controverse surviendra à propos de l'affiche originale utilisée pour promouvoir le film. En effet, l'image montrait un homme noir traquant une femme blanche. Cette image choquera quelque peu dû au procès de l'acteur O.J. Simpson, alors accusé du meurtre de sa femme. L'affiche sera alors remplacée par celle existante aujourd'hui. Un jeu de société basé sur Candyman Farewell to the Flesh sortira au milieu des années 90 comme objet promotionnel pour le film du même nom. Le jeu comprenait un plateau, un dé et des cartes qui auront un impact sur tous les joueurs. Le principe du jeu était le suivant. Pour gagner, le joueur doit avancer dans le sens des aiguilles d'une montre dans les rues de la Nouvelle-Orléans et se rendre au manoir avec la carte clé afin de percer le secret du pouvoir du Candyman. Du côté des points positifs, eh bien Candyman Farewell to the Flesh bénéficie d'une très belle direction photo de Tobias Schlissler qui nous donne ici un visuel assez bien réussi. La présence de l'acteur Tony Todd ici perce l'écran et chacune de ses présences est assez pour rendre intéressant cette suite qui est cependant bien au-dessous de l'original. Même l'actrice Kelly Rowan se tire très bien d'affaire ici, la comédienne se démarquant complètement du reste de la distribution et nous donnant ici une final girl intéressante et surtout très intelligente. Quelques séquences sont bien troussées techniquement et parviennent à attirer notre attention, le tout bien soutenu par la musique hypnotisante du compositeur Philip Glass, partition musicale qui est malheureusement mal utilisée à certains endroits. Un point très intéressant de cette suite, la présentation visuelle des origines du Candyman. Mais du côté des points négatifs, eh bien malheureusement, cette nouvelle production se contente de remâcher les éléments forts de son prédécesseur sans trop en améliorer le concept, voire même apporter quelques nouveautés qu'il soit. La mise en scène est ordinaire et nous donne même par moments l'impression de regarder un film tourné soit pour une sortie directement pour le marché de la vidéo ou même pour quelque chose tourné directement pour la télévision. La distribution est ici généralement adéquate, mais sans plus, alors que le scénario et son réalisateur ne parviennent pas à créer un suspense, le tout dominé par une série d'effets chocs gratuits qui deviennent lassants à la longue. Au final, Bill Condon n'est peut-être pas le meilleur metteur en scène pour cette œuvre, qui possédait tout de même une bonne histoire de fond, mais qui aurait gagné à être plus travaillée, tant au niveau de l'écriture, mais également de la mise en scène. Pour la trame sonore, eh bien, c'est encore le compositeur Philip Glass qui continue ici à écrire la musique de ce film. Lui qui avait composé la trame sonore des films The Thin Blue Line, Koyaan Nitsikati, The Secret Agent et The Hours. Vous pouvez trouver la musique du film Candyman Farewell to the Flesh sur l'album The Music of Candyman, un CD qui a été distribué le 21 septembre 2001 sous l'étiquette Orange Mountain Music. Et vous pouvez également avoir l'édition limitée de Candyman 2 Farewell to the Flesh qui a été distribuée en vinyle et en cassette en janvier 2016 sous l'étiquette One Way Static Records.
The screen's most brutal killer is back for blood.
They say he came back from the dead, his hand replaced by a bloody hook.
And revenge never tasted so sweet.
Believe.
They say he called his name 5 times into a mirror and he appears.
Candyman.
And when he comes, he'll be the last thing you ever see. Candyman.
Hate generates hate.
Candyman.
Evil breeds evil.
Candyman. Be my victim.
Candyman.
Candyman.
Who are you?
Your past, your present, your blood.
Artisan Entertainment presents Tony Todd.
Feel my pain.
And Donna DeErico.
It was the Candyman. He's real.
Candyman. Day of the Dead.
Help me! Help me!
From Artisan Entertainment.
Candyman, Day of the Dead, ou Candyman 3, Le Jour des Morts, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Artisan Entertainment le 9 juillet 1999. Ce film d'une durée de 93 minutes a coûté 3 millions de dollars à produire et c'est un film qui sortira directement pour le domaine du vidéo, soit une sortie directement en DVD. Au poste de réalisateur, on y trouve le metteur en scène américain Turi Meyer, lui qui avait réalisé les films Sleep Stalker et Alien Express. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain Al Septien, lui qui avait réalisé le film Sleep Stalker, ainsi que des épisodes de la série Smallville et Stargirl. William Stewart, ce producteur américain qui avait produit les films Payoff et Holy Matrimony. Et finalement, Tony Todd, ce producteur américain qui avait produit les films Candy Corn, Scarecrow Slayer et Sushi Girl. Au poste de scénarisation, on y retrouve les scénaristes américains Al Septien, lui qui avait écrit le scénario de The Legend of Galgameth et Leprechaun 2, et Turi Meyer, lui qui avait écrit le scénario de Chairman of the Board et Wrong Turn 2 Dead End. Dans la distribution, on y retrouve Tony Todd, Donna Derrico, Nick Corey, Ernie Hudson Jr., Wade Williams, Robert O'Reilly, Lombardo Boyard, Lupe Ontiveros et Lillian Hurst. Un spectre commet des meurtres horribles dans l'entourage d'une jeune femme dont il serait le lointain descendant. Bien que ce nouveau chapitre des aventures de Candyman ait été considéré comme un échec commercial, ayant amassé beaucoup moins d'argent que son prédécesseur, un troisième opus sera alors entrepris. Ce sera la maison de distribution Artisan Entertainment qui obtiendra les droits de distribution, Artisan devenant plus tard la compagnie Lionsgate Entertainment. Une décision sera rapidement prise afin de produire le dit long-métrage pour être distribué directement en DVD. Turi Meyer sera alors embauché à titre de réalisateur et de co-scénariste avec le scénariste-producteur Al Septien. Il s'agira ici du deuxième film dans la carrière du jeune réalisateur américain, ce dernier ayant précédemment dirigé le drame fantastique Sleep Stalker en 1996 aux côtés de Al Septien. Un budget sera alors entendu pour 3 millions de dollars et la production se devait de débuter le 17 août 1998 à Boyle Heights, dans le côté est de Los Angeles. Tony Todd sera de retour pour une troisième fois dans le rôle-titre avec à ses côtés la playmate Donna Derrico, Ernie Hudson, Nicole Contreras, Wade Williams, Alexia Robinson et Jules Garcia que l'on avait vu dans le film A Nightmare on Elm Street en 1984. Cependant, juste avant le début du tournage, les exécutifs d'Artisan Entertainment découvriront que la compagnie Sony, qui avait distribué le premier film aux États-Unis, avait légalement les droits d'être impliqué à toutes sortes de suites au film original de 1992. Heureusement pour eux, les exécutifs de la Sony refuseront toute implication avec ce projet et la production put continuer. Le tournage se terminera le 12 septembre 1998 et ce sera le compositeur Adam Gorgoni qui sera approché pour réaliser la trame sonore de ce troisième volet. Le film, dont l'histoire se situe 25 ans après les événements de Farewell to the Flesh, sortira donc en DVD le 19 juillet 1999. Intitulé Candyman, Day of the Dead, le drame fantastique aura tout de même une sortie en salle en France une semaine avant sa sortie DVD. Distribué la même année que Lake Placid et The Blair Witch Project, Day of the Dead est considéré comme la plus faible entrée dans la franchise. D'ailleurs, la mauvaise réception du film par les journalistes et surtout les fans forceront l'abandon de la franchise pendant quelques années. Puis, arrivera en salle le film à succès Freddy vs. Jason en 2003. La compagnie Miramax décidera alors de produire un crossover entre la franchise de Candyman et celle d'Hellraiser, mais l'auteur britannique Clive Barker mettra son droit de veto sur le dit projet, ce qui annulera ce dernier. Par la suite, un crossover avec la franchise Leprechaun sera alors considéré, mais cette fois-ci, ce sera l'acteur Tony Todd qui refusera de participer à ce projet sur le champ, trouvant le concept et le scénario complètement ridicules. Le futur de la franchise semblait alors avoir atteint une impasse, alors que l'acteur-producteur Tony Todd reniera le film durant l'une des conventions Weekend of Horrors de Fangoria en 2008. Du côté des points positifs, eh bien, malgré que le long métrage soit réalisé pour une sortie directement en vidéo, le film, bien que très ordinaire face aux autres chapitres de la franchise, est tout de même un peu supérieur au genre de spectacle dont on peut s'attendre normalement de ce genre de produit. Bien que l'histoire de fond soit tordue et illogique, le drame fantastique se laisse tout de même bien regarder. Même l'acteur Tony Todd, qui demeure ici le seul véritable intérêt de ce nouveau volet de Candyman, n'a pas la même prestance que dans les films précédents, le metteur en scène étant incapable de lui donner des séquences mémorables. Et du côté des points négatifs, eh bien, ce troisième volet de la franchise est marqué par un scénario artificiel et stupide qui ne donne aucune chance au réalisateur ni à la distribution de se démarquer. La mise en scène de Mayer est ici typique de ce genre de spectacle qui ne cherche qu'à nous envoyer des scènes chocs les unes à la suite des autres sans grande logique. Au niveau de la distribution, l'actrice principale est ici mal choisie, cette dernière ne montrant son talent que par ses attributs grossiers. D'ailleurs, le scénario se permet même de changer quelque peu les origines du Candyman, comme si les scénaristes n'avaient même pas écouté le film précédent. Une autre stupidité du scénario est le fait que l'on ne s'attarde nullement à expliquer comment le personnage sanguinaire a pu revenir suite à sa défaite dans le long métrage précédent, ni même pourquoi le personnage principal féminin de Candyman 2 a de nouveau prononcé le nom du meurtrier devant un miroir, sachant très bien les conséquences de son geste qui amèneront à son décès. L'idée de mélanger la légende du Candyman avec la fête de la Nouvelle-Orléans du jour des morts était très intéressante ici, mais encore une fois, le réalisateur a totalement manqué l'occasion de profiter de cet événement afin de nous donner un visuel intéressant et surtout une histoire beaucoup plus mystérieuse et intrigante que ce qui nous est offert ici. Même les actions du Candyman sont totalement gratuites ici, ce dernier étant même capable de s'attaquer à des gens qui n'ont nullement prononcé son nom devant un miroir ou encore pouvant le faire sans la présence de la personne ayant commis le geste irréparable. Au final, voici un cruel exemple de cette façon gratuite qu'avaient les studios de chercher à faire de l'argent facile sur le seul nom d'une franchise qui était malheureusement nettement en déclin. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain Adam Gorgoni qui s'est occupé de la musique du film ici, lui qui avait travaillé sur les films Waiting, The Dead Girl, Breakable You et Aliens in America. Vous pouvez retrouver la trame sonore de Candyman 3 Day of the Dead en CD, un CD qui a été distribué le 2 octobre 2001 sous l'étiquette Beyond Music Tommy Boy.
Legend is, if you say his name 5 times while looking in the mirror, he appears in the reflection and it kills you.
Who would do that?
Candyman.
Well, we're still alive.
Let's go.
Trina, you broke the door. This isn't funny!
I feel really connected to this neighborhood. Cabrini Green. It was the projects. I just moved in around the corner.
The old candy factory.
I'm an artist.
You look up a candy man. He's the monster that's part of this neighborhood.
Why are you drawn to this?
I'm hoping to spread the story all about Candyman. The mirror invites you to summon him. You should say his name. I dare you.
Candyman.
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 Don't say that.
Candyman.
I think I made a mistake. I brought him back.
Candyman isn't real!
Something's happening to me.
He had a purpose for you. To be another one of his terrible stories.
I guess he found me.
I am the writing on the wall. The sweet smell of blood.
Candyman, ou Candyman, le spectre maléfique, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Metro Godwin Mayer le 27 août 2021. Ce film américain d'une durée de 91 minutes a coûté 25 millions de dollars à produire et a amassé plus de 77,4 millions de dollars au niveau international. Au niveau du poste de réalisateur, eh bien, on y retrouvera la réalisatrice américaine Nia DaCosta, elle qui avait réalisé les films The Marvels et Little Woods. Au niveau du poste de producteur, eh bien, on y retrouvera les producteurs américains Jordan Peele, lui qui avait produit les films Black Landsman, Us et Get Out, Wynn Rosenfeld, lui qui avait également produit le film Black Landsman et la série télé The Last OG, et finalement, Ian Cooper, qui avait produit les films Us et Nope. À la scénarisation, on y retrouve les scénaristes américains Jordan Peele, lui qui avait écrit le scénario de Keanu, Us et Get Out, Wynn Rosenfeld, lui qui avait écrit le scénario de la série télé de Twilight Zone, qui avait été distribuée à l'écran en 2019-2020, et finalement, Nia DaCosta, cette scénariste américaine qui avait écrit le scénario du film Little Woods. Dans la distribution, on y retrouve Yahya Abdul-Mateen II, Teona Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Coleman Domingo, Kyle Kaminsky, Vanessa Williams, Rebecca Spence, Michael Hardgrove et Tony Todd. Un artiste peintre et sa compagne emménagent dans un luxueux loft construit sur l'ancien emplacement des tours de Cabrini Green, jadis un des sites les plus pauvres de Chicago. Au hasard de sa rencontre avec un vieil habitant du quartier, le peintre apprend la légende urbaine du Candyman, un tueur surnaturel qui apparaît dès qu'on prononce son nom 5 fois devant un miroir. Intrigué par cette histoire, l'artiste cherche à s'en inspirer pour composer ses nouveaux tableaux avec des résultats dramatiques. Finalement, vers la fin de 2004, un quatrième opus sera alors envisagé, film qui devait alors se situer en Nouvelle-Angleterre et qui aura focusé son histoire sur un professeur travaillant dans un collège pour jeunes femmes qui découvrira alors qu'il est un descendant du Candyman. Un budget de plus de 25 millions de dollars sera alors accordé au projet de long métrage qui devait alors impliquer Clive Barker. Ce ne sera cependant pas avant 2009 que le réalisateur Dion Taylor sera embauché pour mettre en image ce scénario. Malheureusement, une dispute à cette époque au niveau des droits d'auteur mettra un terme à ce projet. Il faudra par la suite attendre jusqu'en 2018 avant que le producteur, acteur et réalisateur Jordan Peele annonce son intention de réaliser un nouveau film de la franchise via sa société Monkey Paw Productions. Quelques mois plus tard, les compagnies de production Universal Pictures et MGM rejoindront officiellement le projet Peele, devenant scénariste et coproducteur avec Wynn Rosenfeld, laissant ainsi la place de la mise en scène du long-métrage à la réalisatrice afro-américaine Nia DaCosta. Le projet sera alors présenté comme une suite spirituelle au premier opus et l'intrigue se situera dans le quartier gentrifié de Cabrini Green à Chicago. Dans la première version du scénario, Hélène sera la vilaine du film, mais DaCosta désirait plutôt revenir aux sources du premier opus et décidera alors que le personnage du Candyman reviendra à ses origines. De plus, alors que le long-métrage de 92 débute sur un plan réalisé à l'aide d'un drone, une première pour cette époque, la réalisatrice décidera alors de mettre l'accent sur le monde inversé du miroir en débutant avec les logos de compagnies de production ayant financé le film, mais également par une vision de la ville de Chicago, vue comme si l'on apercevait la réflexion de cette dernière, la réalisatrice désirant démontrer à son auditoire qu'elle allait apporter une nouvelle vision à cet univers unique des années 90. Pour DaCosta, Candyman sera une occasion pour elle et Jordan Peele de parler de la violence raciale et comment cette dernière peut être au centre de la création de monstres meurtriers cherchant à réclamer justice pour les crimes inhumains faits contre eux. Pour les séquences de transformation corporelle du personnage principal, la réalisatrice sera grandement inspirée par le réalisateur canadien David Cronenberg et son film de 1986, The Fly. Dès le début, Tony Todd se montra très intéressé et sera alors secrètement embauché. La Keith Stanfield, qui avait déjà travaillé avec Peele sur Get Out, sera approchée pour le rôle de Anthony McCoy, rôle qui ira finalement à l'acteur Yahya Abdul-Mateen II, acteur qui avait interprété le personnage de Black Manta dans le drame fantastique Aquaman en 2018. Vanessa Williams, dont la prestation du personnage de Anne-Mary McCoy dans le film de 1992 était son second rôle sur le grand écran, fera ici un retour dans le même rôle. Un autre retour dans la franchise sera l'actrice Virginia Madsen, qui enregistrera quelques dialogues qui seront entendus dans ce nouvel opus, l'actrice n'apparaissant pas dans le film, sauf dans des images recyclées du film de 1992. Une fois la distribution complète, le tournage qui devait débuter au début de 2019 sera reporté au mois d'août de cette même année et se terminera en septembre dans la ville de Chicago, en Illinois. Candyman sera le tout premier film de la franchise à être tourné à l'aide de caméras digitales, les autres films ayant été tournés sur bobine de film 35 mm. Bien que l'écrivain Clive Barker ne soit pas impliqué sur cette production, Jordan Peele fera quelques hommages à l'auteur. Tout d'abord, le personnage Clive Priveler, qui sera ici interprété par l'acteur Brian King, obtiendra son nom en hommage à Clive Barker, tout comme le fait qu'il y aura un couple homosexuel, Barker étant lui-même ouvertement gay. Au niveau des œuvres d'art apparaissant dans le long-métrage, toutes ces œuvres furent réalisées par des artistes afro-américaines de la ville de Chicago. La production fera alors le tour des différentes galeries d'art de la ville pour choisir les différents peintres qui réaliseront les peintures présentées pour représenter la descente aux enfers du personnage principal. Le personnage de Daniel Robitaille, interprété par Tony Todd en 1992, était un peintre. Il fut normal que le personnage principal de ce film continue dans cette même direction. DaCosta embauchera alors le compositeur afro-américain Robert Aiki Aubrey Lowe afin de créer une musique qui serait unique pour cette nouvelle version tout en respectant ce qui fut réalisé pour la version de 1992. Le compositeur, fan du film original de Candyman et également ayant vécu à Chicago, proche de Cabrini Green, acceptera rapidement l'opportunité et créera un univers musical terrifiant pour cette nouvelle version cinématographique. Pour conserver le mystère autour de la production, le long métrage sera alors tourné sous le titre « Say My Name ». Certaines séquences furent tournées dans le quartier de North Park ainsi que dans les derniers vestiges des maisons en rangée clôturée de Cabrini Green, datant de 1942. De plus, cette nouvelle version de Candyman sera le tout premier long-métrage tourné dans l'enceinte du Musée d'art contemporain de Chicago. Le film comporte des séquences d'animation de marionnettes créées par Manual Cinema. Ce sera le producteur Jordan Peele qui choisira de prendre le système des ombres chinoises afin de raconter les différentes légendes urbaines touchées dans le long métrage et développera alors un produit final incroyable avec la compagnie de production théâtrale. La diffusion sur le web de la bande-annonce du long métrage sera très populaire, cette dernière ayant été regardée par plus de 75 millions de personnes. La sortie de Candyman fut repoussée à plus de 3 reprises à cause de la pandémie de la COVID-19. Devant sortir en salle en juin 2020, le film se verra présenté sur le grand écran en août 2021 et amassera plus de 77 millions de dollars au box-office mondial, tout en obtenant de très bonnes critiques tant au niveau des journalistes que des amateurs de la franchise. De plus, la réalisatrice Nia DaCosta deviendra la toute première afro-américaine à obtenir la première place au box-office lors de la sortie de son œuvre cinématographique. Lors de sa sortie en DVD et en Blu-ray, le film fut disponible dans une version Director's Cut qui comprendra alors une conclusion différente que celle projetée en salle. Candyman obtiendra de multiples nominations comme meilleur film, meilleur scénario, meilleurs effets visuels et meilleure réalisatrice dans différents événements tels que NAACP Image Awards, le Black Reel Award, l'ADG Excellence in Production Design Award et finalement au Visual Effects Society. De plus, le drame fantastique amassera deux prix pour le meilleur acteur au Critics' Choice Super Awards ainsi qu'au Fangoria Chainsaw Awards, en plus d'obtenir de multiples autres nominations. Candyman est une belle façon de clore la franchise du personnage de Daniel Robitaille. Du côté des points positifs, eh bien, la réalisatrice nous donne ici un visuel soigné et travaille avec un scénario intelligent qui s'amuse avec les légendes urbaines, nous montrant à quel point ces dernières peuvent être transformées par la population d'une génération à l'autre. D'ailleurs, cette façon de traiter les légendes urbaines, soit avec l'aide des ombres chinoises ou encore avec la réflexion des miroirs et des mondes qui se trouvent de l'autre côté de ceux-ci, sont extrêmement originaux, ce qui donne lieu à quelques séquences impressionnantes dans le long métrage, notamment la scène du meurtre du propriétaire d'une galerie d'art et de sa petite amie. Cette suite directe au premier film ignore les deux autres films de la franchise sans pour autant manquer de respect aux amateurs en leur faisant croire que ceux-ci n'ont jamais existé. Jouant avec la perspective, la réalisatrice réussit à nous donner ici un univers autonome qui peut s'écouter même si l'on n'a pas vu le film original de 1992, ce qui lui permet de redonner un second souffle à cette franchise vieille de près de 30 ans. Mais du côté des points négatifs, eh bien, le film manque ici de focus et mêle quelque peu son auditoire. Je comprends l'idée du téléphone arabe et que les légendes sont modifiées par celui qui les raconte. Cependant, la réalisatrice nous montre en réel certains personnages de ces dites légendes, ce qui porte confusion sur qui est le véritable Candyman. L'aspect du conflit culturel au niveau de la couleur de peau est trop dominant ici. On comprend qu'on veut nous passer le message du « Black Lives Matter », mais alors que d'autres films et d'autres séries télé ont déjà utilisé ce type de médium pour nous présenter ces réalités de notre existence, on se demande si cela était vraiment nécessaire de mettre l'emphase là-dessus encore une fois. Finalement, les amateurs de scènes sanglantes seront quelque peu déçus ici. La réalisatrice semble nettement plus à l'aise dans les moments dramatiques que dans les scènes d'horreur. La violence est discrète et le rythme est très lent, le visuel et l'histoire étant beaucoup plus importants ici que l'hémoglobine à outrance. Cependant, quelques scènes chocs devraient néanmoins combler d'aise les amateurs du genre. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur Robert Aki Aubrey Lowe qui s'occupe ici de la musique du film. Lui qui avait travaillé sur les trames sonores des films Last Kind Words, Old Man Carmantine et Miss Lovely. Vous pouvez trouver la trame sonore du film Candyman en CD et en vinyle. C'est sorti le 27 août 2021 sous l'étiquette Waxwork Records. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Candyman version 1992 4. Moi, j'y vais avec un 3. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film Candyman 1992 très indicatif. À l'époque, le film était coté 16 ans. Moi, j'y vais avec un 14 ans pour, bien sûr, des scènes de violence. Du côté de Candyman, Farewell to the Flesh, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté Candyman 2 très indicatif. À l'époque, le film était coté 16 ans. Moi, j'y vais également avec une cote 14 ans pour, bien sûr, des scènes de violence. Pour Candyman 3, Day of the Dead, eh bien, Mediafilm a coté le film 6. J'y vais également avec une cote 6. Le film est coté 13 ans indicatif par la régie du cinéma. J'y vais également pour une cote 14 ans pour de la violence et de la nudité. Et finalement, Candyman, la version de 2021, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma a coté le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec un 14 ans ferme pour des scènes de violence. Au niveau de la disponibilité en DVD, en Blu-ray, eh bien, Candyman est disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Il est également disponible dans une version 4K. Vous pouvez trouver le film Candyman Farewell to the Flesh également en DVD et en Blu-ray, en français et en anglais. Vous pouvez trouver également Candyman 3 Day of the Dead en DVD et en Blu-ray, en français et en anglais. Et finalement, vous avez Candyman, la version de 2021, qui elle est disponible en DVD et en Blu-ray, en français et en anglais. Et vous êtes capable également de trouver ce film en 4K. Il existe également différents coffrets. Donc, vous avez Candyman, la version 2 disques, qui met en vedette le film de 92 et le film de 2021. Vous avez également le coffret qui met en vedette Candyman 1 et 2 ensemble. Et pour les collectionneurs, il existe ce qu'on appelle le Steelbook, donc Candyman, le film original de 92 qui avait été sorti donc, dans cette édition boîte de métal, une édition de collectionneurs qui était sortie au début des années 2020.
Coming soon to a theater near you.
John Rambo, a drifter, just passing through their town.
Morning! Headed north or south?
North.
Now jump in. I'll make sure you're heading the right direction.
You got some place I can eat around here?
There's a diner about 30 miles up the highway.
Is there any law against me getting something here?
Yeah, me. I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.
They knew he was innocent.
Starting to dislike you. A lot.
And they didn't give a damn.
Was the best combat vet I've ever seen. Double-crossed and left behind enemy lines.
You're the one who's making the mistake.
Yeah, what mistake?
Rambo. Rambo. What most people call hell, he calls home. No law, no war can stop him. Sylvester Stallone is back as Rambo.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.